bonjour à tous. Aujourd'hui dans la Grande Table, une autre histoire de l'art en noir et une histoire mondiale des traites, c'est-à-dire du commerce d'êtres humains. Alors qu'Emmanuel Macron vient d'annoncer la création d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage à l'occasion du 170e anniversaire de son abolition, retour à partir de 1855 aux origines de cette histoire commune, de ce système criminel qui a façonné notre monde avec l'historienne Catherine Kokri-Vidrovitch et Fanny Glissant, co-réalisatrice de l'audacieuse série documentaire Les routes de l'esclavage, 4 fois 52 minutes, diffusée ce soir sur Arte et dès demain sur France O. Mais d'abord, vous faire découvrir un peintre américain encore méconnu en France. Engagé dans la lutte pour les droits civiques, féru d'art, depuis plus de 30 ans, il s'attache à rendre visible avec son pinceau les oubliés de l'histoire de l'art. Il peint le quotidien des Noirs américains, des visages en noir profond, dans des environnements saturés de couleurs. Grand nom de l'art contemporain, Kerry James Marshall vit aujourd'hui à Chicago, où nous l'avons rencontré dans son atelier.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Qu'est-ce que l'art, si ce n'est une quête d'idéal, le reflet extérieur de nos désirs? Une rétrospective de ses œuvres a voyagé au sein des trois grands musées américains. Le musée d'art contemporain de Chicago, le musée d'art contemporain de Los Angeles et le Metropolitan Museum de New York. Dans l'exposition Être moderne, le MoMA à Paris, on pouvait voir l'un de ses grands formats, Untitled, acquis par le musée en 2015. Il a énormément réfléchi à sa pratique, discret et généreux. Kerry James Marshall est l'auteur d'une œuvre multiforme entre peinture, bande dessinée et grandes fresques murales, dont celle qu'il venait de terminer à l'automne dernier à Chicago, représentant 20 femmes, 20 figures emblématiques de Chicago, la ville où il vit actuellement. Je lui ai demandé pourquoi il a voulu les honorer.
Les femmes sur cette fresque, eh bien, ce sont 20 femmes qui ont été essentielles dans le développement d'institutions culturelles de Chicago. L'une d'entre elles, c'est Margaret Burroughs, la fondatrice du DuSable Museum sur Cottage Grove, juste en face de l'Université de Chicago. Il y a des emblèmes culturels comme Gwendolyn Brooks, qui est une poétesse laurée, Oprah Winfrey, qui est la productrice et l'animatrice de talk show qui a aidé à transformer le paysage des talk shows télévisés. Il y a des gens comme Suzanne Ghez, qui est la directrice qui a servi le plus longtemps la Renaissance Society de Chicago. Des gens comme ça. Il y a Barbara Gaines, la fondatrice du théâtre shakespearien de Chicago. Voilà le genre de personnes qui sont sur cette fresque. Il y a Jane Sachs, qui dirige Project End, qui produit, en fait, c'est une organisation qui facilite l'émergence de projets pour des artistes, des écrivains, des acteurs, des poètes. Voilà le type de personnes qui sont représentées sur cette fresque. Et le Centre culturel de Chicago, c'était l'endroit le plus pertinent pour la reconnaissance des accomplissements effectuées par ces femmes. Si on regarde cette fresque, si on regarde sa conception, la couleur, parce que ce tableau est intitulé le quatrième Rushmore. Vous savez, il y a un mont appelé Rushmore aux États-Unis sur lequel sont sculptés les visages de Jefferson, Lincoln, Washington et Teddy Roosevelt, les quatre présidents américains. C'est sculpté dans la pierre. Donc, si vous reprenez cette idée d'un monument à la Rochemort sur lequel on pourrait sculpter les visages de ces femmes, mais ils sont sculptés dans un paysage vivant parce que c'est sculpté dans les troncs de grands arbres. C'est comme des totems. Mais c'est pas un totem où l'arbre aurait été coupé et tué. Non, un totem où l'arbre est toujours vivant et sur lequel on aurait sculpté les visages de ces femmes. Dans un arrangement totémique. Donc la couleur de ces visages, parce que c'est la couleur de l'écorce, sous l'écorce, c'est-à-dire le bois de l'arbre. C'est pour ça qu'elles sont de cette couleur-là. Et dans cet espace, si vous sculptez quelque chose dans un arbre, tout le monde aura la même couleur de peau, parce que la couleur est déterminée par le matériau. Vous savez, le mont Rushmore n'est pas peint non plus. Ces visages ont la couleur de la pierre. Ça n'aurait pas beaucoup de sens de changer et de faire que chacun soit différent d'un autre, étant donné les circonstances et leur présence ici. Ça n'aurait pas eu beaucoup de sens, pas sur le plan conceptuel.
Et donner du sens, c'est ce que vous avez cherché à faire durant tout votre parcours, hein, Kerry James Marshall. Qu'est-ce que vos peintures peuvent rendre visible qu'on ne voit pas, nous, à l'œil nu ?
Oh, nothing.
Bah, rien.
I mean, if you're looking at,
bah, si vous regardez un tableau, un tableau est un objet, gouverné par toutes les contingences, les règles, les relations avec lesquelles nous sommes déjà familiers. C'est pas comme si des gens voyaient des choses qu'ils ne pourraient pas voir autrement. Ce que les tableaux font, ou ce que l'art tend à faire généralement, c'est tout simplement d'amplifier ou de concentrer l'attention sur un sujet donné, dans un contexte donné, pour un moment donné. C'est ce que font les tableaux. Je ne fais que montrer des choses que vous n'auriez peut-être pas observées si je ne vous l'avais pas montré. Pas des choses que vous ne pouviez pas voir si je ne vous l'avais pas montré.
Mais on peut dire que dans la vie, comme en peinture, si on gratte un tout petit peu la première couche, si on regarde au-delà des apparences, on découvre souvent une autre réalité ou une autre vérité, Kerry James Marshall. Là, par exemple, si on prend l'exemple de cette peinture qui est exposée dans votre atelier, on y voit de l'extérieur une femme à travers la fenêtre qui est en train de se choisir une robe, de s'habiller. Elle est en culotte, avec ses cheveux noués dans un drap, elle sort peut-être de la douche. Elle se choisit une robe de couleur, son chien observe par la fenêtre. Ça, c'est ce que moi, je vois à l'œil nu. Mais si je cherche un peu plus loin, qu'est-ce que je pourrais voir d'autre ?
Vous me
demandez si vous devriez voir plus que ce qu'il y a là ? Non. Ce qui est là s'y trouve. C'est tout à fait simple. C'est tout à fait explicite. Ce qui est là est là. Mais ce qui est là, c'est l'endroit occupé par le personnage dans le tableau. Et le but du regard, c'est quelque chose auquel nous ne réfléchissons pas si souvent. En fait, le tableau parle de voyeurisme. On regarde par une fenêtre à travers une autre fenêtre. Et on implique dans ce regard le spectateur qui regarde le tableau. C'est un double regard. Il y a un sujet qui regarde le tableau, mais aussi on a un sujet qui regarde de l'extérieur ce tableau. Et ce que l'on fait, c'est qu'on regarde une femme, tout simplement, qui est totalement impliquée, totalement absorbée dans son processus de se préparer à être vue ailleurs. C'est ce que vous voyez. Là, à l'évidence, elle sort de la douche, elle se prépare, elle choisit un vêtement, elle regarde pour voir si c'est véritablement ce qu'elle veut porter et si c'est ainsi qu'elle veut être vue. Mais on regarde simplement un moment intime auquel on n'est pas obligatoirement convié. Mais ça répond à l'histoire, en fait c'est une réaction à l'histoire de Suzanne et des vieillards, où elle est espionnée par deux vieux auxquels finalement elle se refuse. Et elle est donc, à cause de cela, accusée d'un délit qui va la mener à la mort jusqu'à ce que la vérité soit révélée et que ce n'était pas elle qui était à l'origine de cette attention, mais c'était que ces deux vieux qui subrepticement avaient tenté de la mettre sous leur contrôle. Et à ce moment-là, les sorts ont été inversés et c'est eux qui finalement ont été mis à mort à sa place parce qu'elle, elle était totalement innocente et ce n'est pas elle qui avait participé à sa propre victimisation.
Kerry James Marshall, le génie de vos peintures, c'est aussi que vous avez introduit des figures noires là où elles n'avaient pas leur place avant vous, dans la tradition occidentale, en détournant les codes de la beauté artistique, que ce soit la Renaissance, jusqu'à l'abstraction américaine. Vous vous inscrivez dans cette histoire de l'art occidental et vous y réintroduisez quelque chose qui était absent jusqu'ici. Et vous avez aussi dit « je m'insère dans cette absence et peux enfin imaginer un idéal et le projeter dans un monde où il pourra enfin entrer en compétition avec tout le reste qui existe déjà ». Vous êtes toujours en quête de cet idéal?
Well, I mean, in a way, if you think about what art is,
si on réfléchit à ce qu'est l'art, qu'est-ce que l'art vraiment? Sinon, une sorte d'imagination de quelque chose que nous pouvons prétendre être idéal. C'est tout ce que l'art a toujours été. Parce que c'est toujours une projection, c'est toujours un imaginaire, une externalisation de la conception de ce qu'il vaut la peine de parler, de réfléchir et de voir. C'est un reflet extérieur de ce que nous désirons. Et pour moi, le fait que j'utilise un personnage noir comme sujet de mon tableau, d'un côté, c'est une sorte de réaction contre le fait que le sujet noir n'ait jamais occupé l'espace du désir dans un sens idéal, principalement dans la tradition artistique de l'Occident. Ce n'est pas notre tradition. Nous ne l'avons pas développée. Nous n'avons pas pris part à son développement de façon dynamique. Ça n'a jamais été censé nous représenter. Mais si nous perdons cette capacité de nous représenter dans un sens idéal, alors à ce moment-là, on a perdu une certaine capacité d'exprimer notre humanité complète en tant qu'êtres humains. Parce que c'est une des capacités des êtres humains. C'est ça dans quoi ils sont investis, cet investissement dans leur désir, et dans leur désir d'être vu, d'être connu, d'être aimé, de ce qu'on s'occupe de nous et qu'on fasse attention à nous. Et si on ne le fait pas pour nous, à ce moment-là, on ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Et donc, mon projet, c'est simplement de ne pas attendre ou de demander à quiconque de faire ces choses pour moi. Je construis tout simplement un idéal et je le projette au monde comme quiconque pourrait le faire.
Et créer ce désir, chercher cet idéal, est-ce que c'est déjà pour vous une forme d'engagement politique?
C'est quelque chose de nécessaire, c'est... C'est une composante nécessaire de la liberté. Et parce que nous vivons dans un monde organisé politiquement, où les hiérarchies, les pouvoirs structurés et contestés, donc tout ce que nous faisons a une dimension politique. C'est inévitable en tant qu'êtres humains. C'est tout à fait inévitable. Et puisque une partie de la façon dont on doit fonctionner, en fait, si vous voulez fonctionner dans le monde en tant qu'égal parmi les égaux, à ce moment-là, ça signifie que vous êtes investi, engagé dans tout type de pratiques dans lesquelles les autres sont engagés aussi. Et donc, il y a une concurrence dans la façon dont les individus se relient les uns aux autres, un groupe l'un contre l'autre. Il y a toujours une concurrence, une compétition. Et à un certain moment, si vous avez toujours senti que vous étiez du côté du perdant dans ces compétitions, eh bien, à un certain moment, il faut trouver une stratégie pour que vous soyez dans une situation où vous n'êtes plus perdant, où, au mieux, vous pouvez arriver à une sorte d'équilibre, à une sorte d'ex-aequo, où vous ne soyez ni dominant, ni dominé, mais dans une sorte de stase qui vous rendent égal. Pour moi, c'est un endroit désirable où il faudrait être. À un moment, à un temps ou à un autre, vous pouvez arriver à une formulation qui vous mette légèrement en avance. Et ça vaut la peine de poursuivre cette voie. À d'autres moments, vous pouvez vous retrouver légèrement en arrière du jeu. Et dans ce cas-là, vous devez remplacer toutes les forces possibles sur le plan de l'imagination, de l'économie, de l'intellect, de la philosophie, pour que vous puissiez vous mettre dans une meilleure situation que celle dans laquelle vous êtes. C'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que je vois la façon dont fonctionne le monde. Soit vous perdez, soit vous ne perdez pas. Vous gagnez ou pas. Vous êtes ex aequo ou pas. Et si toutes ces relations montrent que vous êtes en état de désavantage, eh bien, il faut faire quelque chose.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Midi 18 sur France Culture, comme un mardi 1er mai avec l'artiste américain Kerry James Marshall.
We don't do the same drugs no more. We don't do the same drugs no more. Cause she don't do the same drugs no more. We don't do the same drugs no more. When did you change? When do you've aged? I thought you never grow up. I thought you never. Window closed. Windy got old. I was too late. A shadow of what I once was. Cause we don't do the same drugs no more. We don't do the same drugs no more. She don't laugh the same way no more. We don't do the same drugs no more. Where did you go? Why would you stay? You must have lost your marbles. You always were so forgetful. In a hurry. Don't wait up.
La très belle ballade Same Drugs, extrait de Coloring Book du rappeur de Chicago Chance the Rapper, 25 ans à peine. Il évoque dans ce titre la nostalgie des années passées. Invité jusqu'à midi et demi, le peintre américain Kerry James Marshall, lui, a été marqué par les mouvements émancipateurs afro-américains, témoin des émeutes de Watts en 65 à Los Angeles, où il a grandi, à quelques blocs du siège des Black Panthers. Né en 55, c'est-à-dire 9 ans seulement avant le vote du Civil Rights Act, qui condamne toutes les discriminations fondée sur la race, le genre ou encore l'origine, des années décisives. Aujourd'hui installé à Chicago, pour Chance the Rapper, Same Drugs, on ne partage pas les mêmes drogues qu'hier. Et pour lui et pour Kerry James Marshall, quel souvenir a-t-il laissé derrière lui? Est-il travaillé par la nostalgie des grands peintres?
Non,
moi je ne suis pas enclin à la nostalgie. À regarder en arrière vers un âge d'or. Je suis ce qu'un ami à moi a appelé un pragmatique radical. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui, ce qui doit être fait maintenant. Je ne suis pas intéressé par la façon dont les choses auraient dû être, parce que je ne pense pas que quoi que ce soit aurait dû être. Les choses ne sont que comme elles sont, que vous aimiez ça ou pas. Et si vous n'aimez pas, eh bien, il faut faire quelque chose à ce sujet. Si vous n'aimez pas la situation dans laquelle vous êtes, eh bien, il faut changer cette situation. Il faut le faire avec les compétences qui vous sont disponibles. Je tends à croire qu'il y a une réalité fondamentale quand on en vient à ces notions de qualité. Votre bien-être ne peut pas dépendre de quelqu'un qui changerait son comportement pour que vous vous sentiez mieux. Ça ne peut pas dépendre de ça. Et à cause de cela, je ne cherche pas... En fait, j'ai vu tout ce que j'ai vu quand j'ai grandi et que vous avez décrit. Ma proximité avec le quartier général des Black Panthers, toutes les émeutes qui se produisaient sur les campus des facs dans les années 60, Tous ces trucs-là, c'est vrai, les émeutes de Watts, toutes ces choses dont j'ai eu une expérience de première main. Mais ce que ça m'a montré, ce que ça m'a prouvé, c'est que, d'un côté, on ne peut pas être un suiveur de ce que les autres font, parce que vous n'avez aucune idée de ce qu'était l'impulsion première, la raison pour laquelle les gens font ce qu'ils font. Vous ne voyez que certaines choses au milieu des conséquences des actions des autres. Mais vous ne pouvez pas véritablement comprendre ce qu'était l'impulsion motivante qui a déclenché cela. Et comme je ne sais pas comment ça a commencé, je n'ai pas fait partie de ces groupes, je n'y ai pas participé. Je n'ai pas participé à cette idéologie ou dans ce système de croyances qui ont fait que ces gens se comportaient d'une certaine manière. Je ne fais que les choses, je ne fonctionne que si je comprends. Parce que, à ce moment-là, je suis arrivé à une certaine conclusion par moi-même et je ne suis tout simplement pas un suiveur de ce point de vue-là. Non, j'ai compris que, quels que soient les bénéfices que le parti des Black Panthers aurait pu apporter, il y avait quelque chose dans leur approche, dans l'environnement au sein duquel ils prenaient ces décisions, qui a causé leur destruction. Et bon, ça n'aurait aucun sens de continuer à avoir un comportement qui vous mettrait dans une situation où vous pourriez de la même manière être abattu. S'il y a quelque chose que les gens peuvent dire au sujet de l'histoire, vous savez, il y a cette vieille scie. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous vous condamnez à la revivre. Vous savez, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Donc, quand vous savez comment les choses se sont produites sous certaines conditions et circonstances, alors vous ne les recommencez pas. Vous ne les recommencez pas, vous trouvez d'autres façons de faire. Et vous restez conscient des dynamiques changeantes dans le monde tel que vous l'expérimentez vous-même. Et vous prenez des décisions en conséquence. Vous faites ce qui doit être fait pour que vous puissiez faire advenir les choses, parce qu'on n'agit que dans notre propre intérêt dans toutes les choses que nous faisons. Et donc, quoi qu'il y ait à faire pour que les choses adviennent, c'est important de savoir aussi ce que vous voulez véritablement. À ce moment-là, vous le faites pour que cela se produise.
Et pour autant, vous n'êtes pas devenu l'ombre de vous-même, pour reprendre le titre de votre autoportrait des années 80, le portrait de l'artiste comme l'ombre de l'ancien lui-même.
Le titre
de ce tableau, et le tableau lui-même, la raison pour laquelle il est advenu, si vous prenez par exemple le degré zéro de l'écriture de Roland Barthes, c'est mon degré zéro. Ce tableau, c'est le point à partir duquel on peut recommencer, à partir de zéro. Recommencer à partir d'un rien, d'un néant. Et à partir de là, dessiner, concevoir une direction complètement différente, mais plus, de façon plus stratégique que précédemment. Avec probablement plus de complexité, avec plus de compétences, avec toutes ces choses-là et la capacité de prendre des choix plus éclairés au sujet de ce que vous faites. C'est ce que représente ce tableau pour moi. C'était un virage, c'était véritablement un revirement pour moi. Qui m'a mis sur un chemin et je me suis dit à ce point-là, je suis plus en contrôle de tout ce qui allait m'arriver comme résultat de ce que j'ai fait en tant qu'artiste et que c'est moi qui allais décider. Ça ne sera pas décidé par que ce soit un establishment de critique ou un establishment universitaire. C'était pas ces forces-là qui allaient décider comment j'allais participer de ce que j'allais faire. Et j'allais décider de ce que j'allais faire moi, ce qui était important, ce qui était nécessaire. C'est moi qui allais le faire pour moi. Et je les ferai à mes propres conditions. C'est pour ça que ce tableau porte ce titre. Et c'est pour ça qu'il a l'air de ce qu'il est.
Si vous faisiez votre autoportrait aujourd'hui, quel serait le titre?
J'ai fait un autoportrait. Il est juste derrière vous, sur le mur. C'est moi. Oui, c'est moi. Et ce tableau aussi, ça fait partie de cette façon dont, si vous comprenez l'histoire de la création artistique, l'idée de la représentation, ce tableau représente le type de choix. À côté de tout ce que j'ai fait, ça représente les choix que l'on peut faire lorsque vous comprenez ce qui est en jeu dans toute la pratique de l'art et de représenter. Ça veut dire que je peux choisir de faire ceci, de faire cela, de faire autre chose, et aucune de ces choses-là ne sont prédéterminées par qui je suis ou par le système au sein duquel je fonctionne.
Un peu plus de 60 ans, vous faites figure, Kerry Jepps Marshall, de patriarche, de modèle pour cette jeune scène artistique de Chicago. Qu'est-ce que vous leur transmettez? Qu'est-ce que vous leur dites sur l'importance de l'art aujourd'hui comme mode d'expression et peut-être de résistance?
Well, you know what,
vous savez,
what I try to
ce que j'essaye de communiquer aux gens, deux ou trois choses. L'art, faire des œuvres d'art, ce n'est pas qui vous êtes. Elles sont fondées sur des idées que vous souhaitez communiquer. Elles ne sont pas la conséquence de votre être. Ce sont des choses que vous faites. Ce n'est pas qui vous êtes. Et parce que les œuvres d'art que vous faites, il n'y a rien là que vous ne devriez pas connaître sur la façon dont ces choses fonctionnent. Savoir, c'est mieux que sentir. Choisir, c'est la seule véritable liberté. La capacité de choisir, c'est la seule chose qui vous rend libre. Au point où, moins vous avez d'options, moins vous êtes libre.
Notre entremetteuse sur place à Chicago, et un grand, grand, grand merci à Michel Slotowski pour sa traduction. À suivre la deuxième partie de La Grande Table à partir de 12h55.